Les années incandescentes, quatrième épisode. Paris, le 18 juin 1895. Ma chère Mamakam, Julie tente de me convaincre de la rejoindre à Vienne pour nous réconcilier, à nouveau. Si ce n'était toi et mon cher papa qui me manquent terriblement, ainsi que Pauline, Hans et la petite Trude, je dirais certainement non. Mais vos absences me coûtent davantage qu'endurer les scènes incessantes de Julie. Ton fils qui t'adore. Embrasse mon bon papa bien-aimé et serre-le bien fort pour moi. Paris, le 19 juin 1895. Mon cher Heinrich, je viens de poster la lettre adressée à Bismarck. Il me faut éveiller sa curiosité sans pour autant l'inonder de détails qui, à ce stade, seraient inutiles. J'espère que cette lettre, dont je te reproduis le texte ci-après, atteindra ce but. Monseigneur, peut-être que quelques-uns de mes travaux littéraires ont eu le privilège d'être remarqués par vous. M'appuyant sur cette faible et discutable autorité, je vous prie, Monseigneur, de me recevoir en vue d'un entretien politique. Ce faisant, je n'essaie pas d'obtenir, par ruse, une interview. Je vous donne ma parole d'honneur de ne rien publier dans les journaux au sujet de cet entretien, quelque précieux que puisse être le souvenir que j'en garderai. Quant au sujet de l'exposé politique que je souhaite vous faire, il s'agit de la question juive. Je suis juif et cela me suffit à me qualifier en l'occurrence. Qu'ai-je donc à dire sur la question juive ? À vrai dire, il m'est difficile de l'exprimer, car dès que je le fais, la première réaction de tout être raisonnable sera de m'envoyer à l'asile d'aliénés, à la section des inventeurs de ballons dirigeables. Dès lors, comment introduire la chose? Peut-être ainsi. 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 17 × 7 = 119. Si je ne m'abuse, j'ai 5 doigts à chaque main. J'écris avec de l'encre violette. Après cela, j'ose enfin le dire. Je crois avoir trouvé la solution de la question juive. Non pas une solution, mais la solution, la seule. Il s'agit d'un projet très vaste et compliqué. Une fois élaboré, je l'ai communiqué à 2 juifs, l'un très riche, l'autre pauvre, mais instruit. Le riche ne m'a pas pris pour un fou, ou alors était-ce simplement par délicatesse. En tout cas, il a admis la possibilité théorique de mon projet et s'est contenté de remarquer à la fin « Vous n'obtiendrez pas l'appui des juifs riches, ils ne valent rien !» Je vous implore, Monseigneur, de ne pas trahir ce secret de famille. Auprès du juif pauvre, l'effet a été différent. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Au début, je croyais avoir conquis son intelligence et ébranlé son cœur. Mais ce n'était pas cela. L'objet de ses sanglots, ce n'était pas les Juifs, mais moi, son ami. Il se faisait du souci pour moi. J'ai dû le réconforter, lui jurer que j'étais toujours persuadé que 2 × 2 = 4 et que je ne voyais pas venir le jour où 2 lignes parallèles se rencontreraient. Il me dit « Si vous poursuivez cette affaire, vous finirez dans le ridicule ou la tragédie. » J'ai fini par lui promettre tout ce qu'il voulait, que je n'utiliserai ce projet que pour un roman. Ainsi, j'ai finalement réussi à lui remonter le moral, que j'avais failli briser. La tragédie, à vrai dire, ne me fait pas peur, pas plus que l'affreux ridicule. J'ai parfaitement le droit de mettre ma personne en jeu pour une idée, qu'elle soit folle ou raisonnable. Mais je dois être le seul à en supporter les conséquences. Or, ce ne serait pas le cas si l'on me soupçonnait de folie. J'ai des parents et une femme qui en seraient profondément chagrinés, ainsi que des enfants dont tout l'avenir pourrait être gâché si l'on me tenait pour un fou voulant améliorer le monde. C'est dans cette situation conflictuelle que je m'adresse à vous, mon Seigneur. Seul l'homme qui, avec son aiguille de fer, a si merveilleusement recousu l'Allemagne déchirée que l'on ne voit même plus les coutures. Seul cet homme-là est assez grand pour me dire si mon projet représente vraiment une idée salvatrice ou simplement un fantasme ingénieux. La question juive est une survivance du Moyen-Âge, dont les nations civilisées ne peuvent se débarrasser, quelle que soit leur volonté, si ce n'est de la manière que je préconise. On a essayé de résoudre le problème par l'émancipation. Elle est venue trop tard. Il ne sert à rien de proclamer d'un seul coup, dans le bulletin des lois, « À partir de demain, tous les hommes seront égaux !» À ce genre de choses, ne croient que les politiciens de brasserie et leurs collègues d'un genre supérieur, les bavards des chaires universitaires et les radoteurs des cercles intellectuels. Si mon projet est simplement prématuré, je le mets à la disposition du gouvernement allemand. Celui-ci pourra l'utiliser quand il jugera le moment venu. En tant qu'auteur du projet, je dois bien entendu m'attendre à toutes les éventualités. Il est possible que vous ne me répondiez même pas ou que vous refusiez de me recevoir. Dans ce cas, mon projet est un roman. Dès lors, je serai pour ma part rassuré. J'aurais tout simplement rêvé, comme l'ont fait tous les utopistes. Je vous prie, Monseigneur, d'accepter l'expression de ma profonde déférence et de mon admiration. Signé, Dr. Theodor Herzl. Paris. Le 30 juillet 1895. Mon cher Heinrich, voilà plusieurs semaines que j'ai écrit à Bismarck et je n'ai reçu aucune réponse. Nuit après nuit, j'écris des prophéties qui ne se réalisent jamais, des professions de foi qui ne se sont jamais accomplies, des déclarations qui ne mènent nulle part. C'est dans ces moments difficiles que le manque de ta présence fraternelle me pèse davantage. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Theodor Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Minck, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.